Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur.
Tout est politique, l'architecture est politique. Dans un monde qui s'uniformise en même temps qu'il se segmente, les gares cristallisent et miment les implicites de l'idéologie qui nous gouverne. J'y étais l'autre fois à la gare Saint-Lazare et je ne la retrouvais pas. Édifiée en 1837, elle a longtemps porté les marques de l'ère industrielle, tant il est vrai que les gares reflètent la façon dont une époque acquiert sa richesse. Son architecture évoquait d'emblée la tour Eiffel. On était à Paris, puisqu'on était dans cet entrelac de dentelles de métal. Sans doute, les preneurs de décision ont-ils perçu ce qu'elle avait de désuet avec sa salle des pas perdue et son embarcadère. On imaginait aisément le voyageur proustien en canne et chapeau, mâchonnant sa jalousie en attendant Odette, ou César Birotteau tout occupé à ses affaires et reniflant l'air parisien pour y inventer un parfum pour les élégantes. Même à la fin du XXe siècle, les voyageurs qui arrivaient à la gare Saint-Lazare respiraient, sans le savoir, les parfums d'une époque marquée par l'effervescence d'une bourgeoisie qui se rêvait élégante et d'une classe ouvrière assurément exploitée, mais pas encore atomisée. À la salle des pas perdus, on se faisait marcher dessus avec une certaine idée de classe. Oh, le monde n'était ni plus facile ni plus juste, mais il était assurément moins vulgaire, car la capacité à consommer n'était pas encore l'étalon auquel se mesurait la valeur d'une vie. Peut-être d'ailleurs personne n'avait véritablement conscience de ce que le capitalisme impliquait, non seulement d'inégalités croissantes, mais aussi de nécessaire assujettissement de la démocratie à ses appétits. Bref, les citoyens nés plutôt récemment de la Révolution française n'étaient pas encore des consommateurs et les voyageurs n'avaient pas été transformés en usagers. Depuis une quinzaine d'années, quelques-uns ont décidé qu'il était plus que temps que la gare Saint-Lazare ait la physionomie de son époque. La salle des pas perdus, celle où piétinaient les impatiences, celle où, pourvu qu'on ne soit pas soi-même trop absorbé dans ses pensées, on croisait des visages refermés sur leurs inquiétudes, dilatés par l'amour attendu, jaunis par l'angoisse. La salle au beau nom de pas perdus n'existe plus et a été remplacée par un centre commercial. Mais c'est vrai ça, qu'est-ce que c'est que ce temps perdu? Mais c'est qu'il risque de s'y perdre et de s'y croiser, de s'y rencontrer et qui sait, de s'y aimer ou de s'y haïr. Hâtons-nous de diriger leurs pas comme il faut et, à grands coups de couleurs et de néons, dessinons une topologie où les mêmes visages anonymes et effacés poseront mécaniquement l'écran de leur téléphone sur l'écran de nos terminaux bancaires afin qu'ils utilisent, d'une façon qui nous enrichisse, le temps qu'il gaspillait à rêver ou à s'écrire des histoires. Mais ce n'était pas encore assez nous asservir que de nous rentabiliser. En arrivant sur les quais, nous retrouvions à notre insu notre goût pour le large et l'air qui s'engouffrait entre les voies, nous gelant parfois les os ou parfois apportant ce vent de printemps qui allège l'estomac. L'air nous donnait encore de romantiques désirs d'aventure. Un esprit particulièrement pervers, et sans doute s'y mirent-ils à plusieurs, après un brainstorming qui n'avait de tempétueux que le nom et ignorait tout du plaisir des embruns dans les cheveux ébouriffés, un esprit particulièrement pervers et probablement plus habitué à mener ses affaires en avion ou en TGV qu'à s'assoupir dans un train de banlieue, voulut faire partager à tous sa chronophobie, espérant du même coup, et s'en débarrasser en la banalisant, et a posé sa signature sur la construction de cet immense monument aux morts qu'est le néolibéralisme. La gare, soudainement, fut dépouillée de ses quais. La gare, mise à nu, fut tronçonnée en zone d'embarquement. Avec ses portiques électroniques, ses annonces trilingues incessantes, voilà qu'elle avait cessé de se ressembler. Voilà qu'elle ressemblait à tout, c'est-à-dire à rien. Désormais humiliée pour n'être plus que le lieu du transit d'êtres, réduits à leur plus physiologique fonction. Voilà qu'elle cessait d'être gare pour devenir aéroport. Ça n'a l'air de rien. Et pourtant, la fleur de chou-fleur venait de retrouver sa ressemblance avec le juteux légume de la mondialisation. Dans ces zones, le voyageur, cruellement rétréci à l'usager, est à la fois perdu et parqué. L'espace, quadrillé en zones bleues, vertes ou roses, cherche à imposer au corps une vie en QR code. Et il faut un esprit follement passionné pour pouvoir s'y inventer des prairies vertes ou gambader, des ciels d'azur ou d'orage, ou un boudoir rose où s'embrasser voluptueusement. J'observais avec tendresse un homme et une femme, qui semblaient avoir inventé un nouveau jeu pour leur joie. Je les regardais franchir la ligne imaginaire entre le rose et le vert, ici s'embrassant avec passion, là sautillant comme des cabris en liberté, puis retournant en zone rose pour de nouveaux baisers et jubilant d'avoir su s'extirper de la double injonction muette d'être docile et néanmoins oppressé comme des bovins vers l'abattoir. Car, à ces zones inutiles et infantilisantes aux couleurs pastel comme des couloirs de crèche municipale, vient s'ajouter la cerise artificielle sur le gâteau empoisonné. Sur les tableaux de départ surchargés d'informations illisibles, le quai, non, la voie, non, la porte d'embarquement, n'est indiqué qu'en toute dernière minute. Et nous voici donc parqués dans nos zones, hypnotisés, soit par les écrans de nos portables, soit par ceux des départs toujours imminents. Embarquement immédiat sur les fragiles esquives de nos égos tout à la fois hypertrophiés et réduits à la peau de chagrin de nos consommations. Embarquement immédiat dans un monde comme nous, uniformisé et segmenté. Un monde qui n'est plus un territoire à défricher, mais un agglomérat de segments de marché. Les zones d'embarquement des gares témoignent de cette volonté d'incorporer à notre chair même la mondialisation marchande où le voyage a disparu au profit des déplacements. Oui. De même qu'au travail, nous devons être flexibles. De même, nos voyages ne sont plus que des mobilités contrôlées. Nous ne voyageons plus, nous sommes déplacés, coincés entre une mobilité stérile et un impossible pas de côté. Car la zone, c'est aussi le quadrillage de notre liberté de mouvement, d'autant plus autoritaire qu'il semble large. À la verticalité, tout ce qu'il y a de contestable d'une société patriarcale régie par la lutte des classes, voici qu'a succédé l'horizontalité des zones dont le flou, savamment entretenu et maîtrisé, camoufle un pouvoir d'autant plus autoritaire qu'il n'est pas immédiatement visible. La perversité tient en cela que le gant de velours des zones au nom pastel, en remplaçant la poigne de fer, n'en est devenu que plus coercitif. De même qu'avec les réseaux sociaux, nous participons volontairement à l'exploitation de nos données et à notre incessante surveillance, de même, par le seul fait que les gares soient devenues des aéroports, nous intégrons, au plus intime de nos corps, le fait d'être devenus les pièces déshumanisées d'un engrenage qui ne supporte plus le moindre grain de sable subjectif. Dans les zones d'embarquement, nous avons la liberté de ces petits enfants qu'on enferme dans des parcs remplis de peluches et de jeux éducatifs. L'espace sans nom qui s'étendait devant les quais est désormais colonisé par ces maniaques du quadrillage qui ne supportent rien moins que ce qui échappe à leur obsession de rentabilité. À la gare Saint-Lazare, la démocratie apparaît pour ce qu'elle est devenue. La gigoteuse, factissement douillette, où nos corps sont insidieusement contraints à téter l'insipide lait d'un néolibéralisme qui nous empoisonne. Et nous, perdus et parqués, nous ne flânons plus. Non, nous zonons.